ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. La dernière aujourd'hui, notre invité sera Ronald Davidson, directeur de la Société pour les enfants handicapés du Québec depuis 1998. Ronald Davidson était encore aux études lorsqu'il a eu la piqûre pour le milieu des organismes à but non lucratif. Après être passé par l'UNICEF et la Fondation canadienne du Rhin et Le Camp, il est devenu le directeur de la Société pour les enfants handicapés du Québec donc en 1998 et depuis sa fondation en 1930 par Marie-Alida Daigle, la Société pour les enfants handicapés du Québec accompagne les jeunes vivant avec un handicap, ainsi que leurs parents, en leur offrant du support, des loisirs, du répit. D'ailleurs, vous connaissez, mesdames, messieurs, le camp Papillon, qui permet aux enfants de vivre un séjour qui est en pleine nature et qui profite des soins et des activités entièrement adaptées. Et sans aucun doute, c'est le volet le plus connu de cette fondation. Pour cette dernière, une émission de la saison où on va découvrir un homme de l'ombre qui contribue avec son équipe et ses bénévoles à égayer la vie de nombreux enfants. Ronald Davidson, bonjour et bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à ces gens qui font la différence.
C'est un honneur pour moi d'être invité et je vous salue également, Sophie.
Ces gens qui font la différence, quand on vous dit le titre, qu'est-ce que ça vous dit?
Ça veut dire plein de choses pour moi, mais j'ai comme tendance à m'exclure de ce thème des gens qui font la différence. Je suis... un homme qui a eu extrêmement de chance dans sa vie, qui a eu beaucoup d'influence. Et je fais des choses qui, j'espère, font une différence. Mais d'en être l'auteur, non, je ne m'approprie pas de cette vantardise-là.
Alors, humblement, on va aller en arrière, mais on va voir votre parcours parce que c'est un parcours qui n'est pas ordinaire. Vous étudiez, on va aller à l'université, vous êtes à l'UQAM, et puis là, on dirait qu'en 84, il y a comme un changement qui s'opère dans votre vie.
Oui, je subis l'université depuis quelques années déjà, et je suis en sciences politiques, puis un beau matin, un ami m'appelle, puis il dit « Mon frère, qui est directeur général de l'UNICEF, se cherche un agent de communication. Est-ce que ça t'intéresse? » Et bien sûr, tout pour sortir de l'université, qui était devenu routinier. Puis, à un moment donné, quand on navigue là, sur la pointe des pieds, puis sans trop savoir où on va, là, à un moment donné, on se lasse. Puis, surtout, j'ai toujours été assez déterminé dans mes... Dans la poursuite de mes objectifs, mais là, j'en avais plus ou moins. Je voulais être journaliste, je voulais m'en aller en relations internationales. Le lendemain, c'était en droit ou... tiens, pourquoi pas nursing, là. C'était devenu ça. Puis j'ai cet appel-là, j'ai dit, bien sûr, l'UNICEF, c'est une organisation qui est resplendissante, qui rayonne partout au monde, et je rencontre cet homme, Laurent Larose, qui m'a profondément marqué dans ma vie, que je connaissais déjà, puisque c'est le frère de mon meilleur ami, Dominique. On a passé les entrevues, puis les bénévoles. Puis moi, j'écoute la télé à cette époque-là. Et on me demande c'est quoi un lead. J'écoute une émission de télévision qui parle de journalisme et de tout ça, puis il me parle d'un lead, puis il parle toujours du lead. Et quand on m'a posé la question au comité de sélection de l'UNICEF, j'ai dit, bien sûr que je connais ça, un lead, c'est une phase d'attaque d'un communiqué. Donc, j'ai eu cette opportunité-là à l'UNICEF parce que j'écoutais la télévision.
Et puis le lead. Dans quel genre de famille vous provenez? Comment c'était? Est-ce que c'est serré? Vous avez grandi à Montréal? Racontez-moi un peu
oui,
votre enfance.
À Montréal, tissé serré encore aujourd'hui. Je suis le cinquième enfant de Dave et Carmen Davidson. Et il y a une particularité, c'est que je suis arrivé 9 ans après le peloton. Ce qu'on appelle ça un accident. Ma mère a toujours dit que c'était un don du ciel, mais ça, je pense que la majorité disait que c'est un accident, mes frères et mon père. J'ai toujours eu des grands frères que j'ai jamais connus, que j'ai commencé à connaître à l'âge de 17 ans, 18 ans. Lorsque je devenais intéressant pour eux à cet âge-là. Avant, je suis souvent la cinquième roue de la voiture. Là, puis faut me traîner, faut s'occuper
de moi. Donc le dernier qui arrive, en tout dernier. Mais gâté quand même?
Oui, pas mal. Je dois l'avouer, j'allais dire un gros mot. Je dois l'avouer, puis c'était toujours une question de moquerie à l'intérieur de la famille, parce que moi, j'avais des choses que... Parce que mes parents... ils partaient, c'était plus la même dynamique à l'époque. Là. Ils avaient fait leur vie, ils étaient vieux, là, fin quarantaine. J'ai trop jeune aujourd'hui, là, mais à cette époque-là, donc, le travail, la maison, tout était très bien rodé. Donc, ils pouvaient se permettre des choses avec moi que mes frères ont pas pu avoir. Là. Alors, donc, ça a toujours été, j'étais le petit gâté.
La famille. Ouais. Un petit gâté. Est-ce que vous aimiez l'école?
Oui. J'aimais beaucoup l'école. Je réussissais relativement bien à l'école jusqu'à ce que j'arrive au Collège Notre-Dame où là, c'était un petit peu plus difficile. J'aimais la confrérie. J'aimais l'unité sociale qui est une école. Donc, je m'impliquais dans pas mal tout, le théâtre, la radio. Les activités parascolaires m'intéressaient beaucoup plus que les mathématiques puis les cours de français, à l'exception de Richard Guay qui m'enseignait l'œuvre d'Émile Zola. Et ça, j'étais complètement... C'est là que j'ai appris à aimer, à lire. C'était de beaux moments, une belle enfance. J'ai été choyé dans la vie.
Alors, votre parcours par la suite, c'est quand même un parcours qui donne au suivant. Tout le long de votre carrière, on va faire le fil du temps. On va aller en arrière, on va aller en avant aussi. Vous doutiez-vous que vous alliez donner? Est-ce qu'il y avait cette sensibilité par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, au niveau familial? Est-ce que vous aviez cette écoute et cette envie déjà de... vous m'avez dit, j'aimais mieux le côté social que d'être, bon, les mathématiques, que d'être assis. Est-ce qu'il y avait déjà cette sensibilité-là?
Oui, ça faisait partie de l'ADN familial. Par exemple, mon père, il était président de la Saint-Vincent-de-Paul dans le petit quartier de Saint-Raymond, là, qui est tout juste enclavé entre Saint-Henri et Notre-Dame-de-Grâce. Oui. Il a été président de la Saint-Vincent-de-Paul durant 30 ans, puis la distribution de paniers de Noël, ça faisait partie du rituel de toute la famille. Mm. Tous les ans, il fallait faire la distribution des paniers de Noël, et des paniers de Noël qui étaient distribués à des compagnons, des compagnes de classe. Là. Et donc, il y avait également...
Ça, c'est quelque chose que vous venez de dire là.
Il y avait également cette obligation de respect, de réserve, de ne pas s'en vanter ou de ne pas être, disons, disons, à l'extrême condescendant. Donc, il y avait toujours ce respect-là de l'intégrité des autres, le respect de qui ils étaient, des malchances qu'ils ont pu vivre et de la chance d'avoir des gens qui sont solidaires avec eux. Donc, ça a toujours, toujours fait partie du... J'ai pas vraiment de mérite, là. Quand je suis arrivé à l'UNICEF, j'ai eu la chance inouïe de m'asseoir dans une chaise puis de dire, en tout début de carrière, c'est ça ce que je veux faire dans la vie. Mais ça faisait plusieurs années que ça se préparait, cette carrière-là.
Parce que juste de voir, c'est très touchant de dire, bon, ben, on distribuait des paniers Noël à des camarades de classe. C'est juste ça, c'est déjà... Puis votre père qui a fait ça pendant 30 ans, c'est déjà une ouverture à l'autre, une générosité, une attention et une sensibilité.
Oui, une sensibilité, ça nous permet aussi de ramener les choses à soi. Puis de dire, et ça j'ai appris ça très très tôt, que la vie c'est un fil de fer. Puis tu essaies de ne pas perdre l'équilibre, mais il arrive à l'occasion où tu bascules d'un côté ou d'un autre, puis ça peut arriver à n'importe qui. Gilles Lebrun, qui était un de mes chums à l'école, à qui on distribuait des paniers de Noël, mais lui, c'était pour moi quelqu'un d'admirable, parce qu'il y avait encore... C'est un chum. Puis c'était un ami, puis il n'était pas question de « toi, t'es chanceux, moi, je suis pas chanceux ». C'était tout simplement une question qu'on est amis. Puis il y a des circonstances, on est dans des milieux qui font en sorte que moi, j'ai besoin d'aide et toi, tu m'aides. Puis on passe à d'autres choses. T'sais.
Alors, vous savez que vous choisissez vos chansons, mais il y a toujours un pourquoi. Je laisse pas ça comme ça, ce serait trop facile, on vous fait travailler quand même. Stromae... Formidable. Pourquoi?
Parce que Stromae, c'est probablement le dernier qui m'a étonné. Il y a beaucoup de Brel dans Stromae, là, mais j'ai été absolument étonné, renversé, bousculé par ce mec-là qui, dans un environnement de musique aseptisée, là, à un moment donné, il y a des pointes lumineuses comme des Stromae ou des Leloup qui nous font absolument vibrer. Puis c'est pour ça, tout simplement.
On l'écoute.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, ces gens qui font la différence se poursuit avec Ronald Davidson, qui est directeur de la Société pour les enfants handicapés du Québec depuis 1998. Donc, il y a eu une vie avant. On continue dans votre parcours. L'UNICEF, comment ça se passe? Parce que là, on parlait tout à l'heure de ventre vide. Il y en a, là, des ventres vides. Là. Il y a une cause, là.
Ouais, c'est une cause urgente, une cause qui est extrêmement complexe. Comment je pourrais dire, de tractation d'adultes, puis c'est les enfants et les mères qui subissent les contre-coups des guerres, des famines, du manque de travail, du manque d'opportunités et surtout du manque d'autonomie, là, de pouvoir se faire une vie, pouvoir se construire une vie. Mmh. Puis l'UNICEF, c'est une organisation qui est une nécessité sur la planète. C'est une organisation qui est hautement respectée, qui a été, je pense, à l'avant-plan de tous les grands mouvements qui ont amené l'Occident ou le Nord à se dire « le Sud fait partie de nous aussi ». Mm-hmm. Donc, chapeau à l'UNICEF. Ouais. Mm-hmm.
Il y a toujours aussi ce sentiment d'injustice, j'imagine, de se dire, bon, il y a la moitié de la Terre qui est au régime, puis l'autre qui crève de faim.
Ben, c'est une très belle façon de le dire. Absolument, absolument. Puis ces inégalités-là, qu'on puisse les tolérer encore aujourd'hui, moi, ça me dépasse. Puis évidemment, ça donne des scénarios de films d'horreur comme la Somalie, où, à un moment donné, il y a une folie qui s'empare d'un pays entier et il y a une communauté qui regarde ça puis qui dit « bof, OK, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? » Donc ça, c'est d'une grande tristesse.
De réveiller davantage aussi. Nos informations sont... Enfin, les centres d'information qu'on a sont aussi juste basés, on dirait qu'ils oublient un côté de la Terre parler.
Puis vous avez des phénomènes comme le Live Aid en 1984-85 avec la crise d'Éthiopie, où là, j'étais à l'UNICEF, puis on voit comment est-ce que la BBC puis tous les médias qui ont emboîté le pas peut être un outil de conscientisation qui est absolument phénoménal. Mm-hmm. Puis le flux de générosité qu'il y a eu à partir de ces des premières images de la BBC à la télévision, où on voyait des enfants en Éthiopie et des mères littéralement abandonnés puis crevés de faim devant la lancée de la caméra. Donc là, on se sent interpellé. Mais en contrepartie, le phénomène est tellement, tellement grand, tellement vaste, que la moyenne des ours dit « comment je peux aider? » Puis la question est bonne. Comment je peux aider? Est-ce que mon aide peut faire la différence? Je pense que oui. Se poser la question, c'est tout à fait normal aussi.
Et puis en même temps, ça se poursuit. Vous l'avez dit, c'est tellement grand. Là, on voit un autre phénomène, les réfugiés de la mer. Mais en fin de compte, ce sont des réfugiés de la terre. Et qui se retrouvent comme ça à perdre des vies pour essayer de trouver un bout de terre, un bout de liberté. Donc beaucoup de travail à faire. Vous avez ensuite vous quitté. Vous avez un parcours tout à fait exceptionnel. Vous allez à la Fondation canadienne du Rhin de Québec. Donc vous n'avez pas 30 ans à ce moment-là.
Hein? Non, j'ai 29 ans et je suis à côté, mais complètement à côté de mes pompes en ce qui a trait à un travail de directeur général. Et il y a eu un comité de sélection, j'en parlais avec Christiane avant l'émission.
Notre recherchiste.
Oui, un comité de sélection qui avait un fichu sens de l'humour ou qui ont vu quelque chose en moi que moi-même, je ne soupçonnais pas. Ou il y a eu un alignement planète, il y a eu quelque chose qui s'est passé. qui ont dit, OK, on retient ta candidature. Puis pour moi, ça a été une école extraordinaire. Parce que travailler avec des bénévoles, c'est travailler en collégialité, mais c'est aussi une école. Donc, il y a un comptable agréé qui va te monter c'est quoi un bilan, qui va t'apprendre à lire un bilan. Tu as des experts en mise en marché, en marketing, qui vont te montrer c'est quoi les mécaniques de mousser une marque de commerce. Donc, je suis entouré de gens qui... faut dire que j'ai été fin également. Je ne vois pas celui qui connaissait tout. Là. J'ai exprimé clairement mes limites dès le départ. Puis, on est devenu une sorte de famille qui partageait des connaissances, toujours dans un même but. Prendre soin de personnes qui sont atteintes d'insuffisance rénale, puis prendre soin dans un contexte d'une cause qui n'est pas tellement sexy. Il y a des causes qui attirent plus l'imaginaire, puis elles sont plus attachantes que la Fondation canadienne du Rhin, mais c'est une cause quand même qui fait énormément de travail en recherche médicale, en recherche clinique. C'est inouï de voir tout le progrès qui a été fait dans les 30 dernières années.
Mais quand vous dites « j'étais complètement à côté de mes pompes », pourquoi?
Mais moi je quitte l'UNICEF, j'ai ma fille Laurence, ma fille adorée, qui a quelques, je pense qu'elle a un an ou un an et demi à l'époque. Puis travailler à l'UNICEF, c'est extrêmement exigeant. Puis j'avais une vision romantique d'un poste dans une fondation québécoise qui pourrait me permettre peut-être de concilier la famille et le travail. Oh, que j'ai eu tort! C'est tout à fait le contraire qui est arrivé parce que j'embarquais dans un nouveau domaine et j'avais tellement à apprendre également et j'avais tellement à donner en retour aussi. Hein.
Et là, je vous cite, vous quittez la Fondation en 94, vous allez à Le Camp, vous devenez directeur général. Ça a été donc ce que vous dites. À un moment donné, bon, une organisation éprouvante, à la limite cruelle, à un moment donné, toute cette tristesse, ces deuils qui n'en finissent plus, ça a eu son homme.
En effet. Le camp, c'est une organisation qui, tout le monde la connaît, qui s'occupe d'enfants, qui finance la recherche clinique pour trouver des solutions aux différentes formes de leucémie et cancer chez l'enfant. Mais c'était, à l'époque, le camp, les bureaux de Le Camp étaient collés à Sainte-Justine. Donc, il y avait le centre de cancérologie Charles Brunon juste derrière, avant qu'il agrandisse. Donc, on était toujours en contact avec les enfants, toujours en contact avec les parents. Et de nature tourmentée, comme je le suis, à un moment donné, tu ne peux pas faire autrement que de faire de la projection. Mmh. Moi, Jean-Loup, mon fils, il y a 3 ans, à l'époque, 4 ans. J'arrivais le soir à la maison, il était dans son lit, j'allais embrasser Laurence, j'allais embrasser Jean-Loup, puis je venais de voir Benoît Lortie. Benoît Lortie, il était du même âge que Jean-Loup. Puis Richard, son père, il vivait une immense tristesse parce qu'il voyait son fils le quitter. Puis il ne savait pas comment se débrouiller avec ça, puis comment composer avec ce drame inouï. Tu t'enterres pas tes enfants, c'est pas normal. Donc j'arrivais à la maison, puis je voyais un bleu sur la jambe de Laurence où je voyais Jean-Loup dormir paisiblement, puis je me disais, est-ce que demain, il y a quelque chose de catastrophique qui pend au-dessus de la tête de mon enfant? Puis pour moi, c'était cette projection-là que j'arrivais plus à me débarrasser. Parce que tu vois les enfants, tu vois les parents, tu t'attaches, tu les accompagnes. Puis à un moment donné, Benoît est décédé, puis c'était comme pour moi perdre à tout le moins mon petit frère. Donc ce deuil-là, difficile à composer avec. J'ai eu un beau compliment à un moment donné d'un chénier qui était sur le membre du conseil d'administration. Il a dit, mais tu sais, nous autres, quand on perd un enfant, on braille, puis notre DG braille aussi. Et c'était un très beau compliment pour moi, mais c'était aussi dire, mais les larmes, là, j'en ai peut-être trop, là. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, occupe-toi donc de Jean-Louis et Laurence, au lieu d'être au chevet des enfants des autres, là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter le camp. À regret, mais je pense que c'était plus une question égoïste pour moi de pouvoir respirer puis de me sortir un peu de cette tristesse-là, qui n'est pas une organisation, soit dit en passant, qui patauge dans le deuil et la tristesse, des choses extraordinaires, des choses très drôles et très réjouissantes qui se passent à l'UQAM aussi. Mais le côté deuil, le côté perdre un enfant, le côté de ne pas savoir s'il va avoir rechute, une rémission qui est toujours si fragile, tu vis en marchant sur des œufs constamment, sur la pointe des pieds, puis en te croisant les doigts que tout aille bien dans le meilleur des mondes pour ces enfants-là. Donc, oui, ça a eu son nom.
Ça a eu son nom, et d'autant plus que, bon, on le sait, le cancer, c'est épouvantable. Y a personne qui mérite d'avoir ça. Et quand en plus, ce sont des enfants qui l'ont, qui n'ont même pas eu le temps de vivre leur rêve, de vivre leur vie, je comprends totalement que vous ayez eu une empathie et que ça a eu son âme, comme vous dites. Benoît, de voir des enfants du même âge que les vôtres.
Ben oui, c'est, puis cette projection-là, elle est intenable. Elle est devenue pour moi intenable. C'était une forme de motivation pour moi de dire non, il ne faut pas que ça arrive. Il faut trouver des moyens de prévention. Il faut trouver de l'argent pour financer la recherche clinique, pour qu'ils trouvent cette espèce de gêne-là qui, à un moment donné... dérape complètement, puis que... Donc, il faut faire... Mais à un moment donné, cette motivation-là prend la place, cède la place à une fatigue.
Une fatigue. Alors, on revient tout de suite après la pause avec, cette fois-ci, votre entrée à la Société pour les enfants handicapés du Québec.
Qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, avec Ronald Davidson, directeur de la Société pour les enfants handicapés du Québec. Et depuis 1998, donc suite à votre parcours, avec le temps que vous avez passé à l'UQAM, ça y est, vous décidez de vous joindre à l'équipe de la Société pour les enfants handicapés du Québec. Et là, on semble que c'est le bonheur que vous voulez donner, vous dites vous-même, vous voulez donner plus de plaisir aux enfants. C'est le plaisir.
Oui, oui. C'était pour moi un coup de foudre. La Société pour les enfants handicapés du Québec carbure au plaisir. Donc, c'est comment accueillir un enfant, que ce soit dans un programme de garderie intégrée ou de résidence ou au camp papillon. Comment l'accueillir, lui donner un environnement entièrement adapté à ses habiletés et comment le faire rire. Puis ces éclats de rire-là m'accompagnent depuis 18 ans et j'en suis le gars le plus heureux au monde de voir ces enfants-là grandir et aussi être si doué dans l'autodérision là, que c'en est hilarant. À chaque jour, il y a un éclat de rire. Puis, je suis profondément amoureux de cette organisation-là et de ces gens.
Parlez-moi justement de la fondation. C'est en 1930. Qui était Marie Alida Daigle?
Apparemment, c'était une personne qui était extrêmement... qui avait un côté militaire. On raconte l'histoire suivante, c'est que Camille Lienhoud, qui était maire de Montréal à l'époque, aurait dit à un moment donné que deux choses qu'il redoutait le plus dans sa vie, c'était de se retrouver aux portes de l'enfer un jour ou de dire non à Mademoiselle Daigle. Parce que Mademoiselle Daigle, lorsqu'elle voulait quelque chose de la ville de Montréal, elle pouvait rentrer pendant un conseil de ville et s'asseoir sur les genoux du maire. Donc, c'est une histoire qu'apparemment... Oui,
elle allait s'asseoir sur les genoux du maire.
Oui, et Mademoiselle Daigle, c'était une femme assez enveloppée qui avait un caractère de chien, avouons-le. Puis elle ne prenait jamais non comme réponse et prenait tous les moyens jusqu'à aller s'asseoir sur les genoux du maire devant un conseil de ville estomaqué et quelques fourrés également.
On imagine la scène, ça ne pourrait pas se faire aujourd'hui.
Et le maire qui n'a pas le choix que de dire « Oui, Mademoiselle Daigle, on va vous faire la subvention que vous avez demandée. »
Alors, ben, de toute façon, ça a fonctionné. C'est quand même, ça sert des mauvais caractères.
Oui, mais je me vois mal, moi, aller m'asseoir sur les genoux de Denis Coderre. Oui. Qui, d'ailleurs, Denis Coderre est un fils de Saint-Alphonse Rodriguez, donc il connaît très bien le camp papillon, mais ça ne m'autoriserait pas à aller m'asseoir sur les genoux.
Bon, de toute façon, ouais. On ne veut pas que vous ayez... Non,
merci,
là.
Vous êtes gentil.
Vous n'avez pas eu besoin de faire ça il y a 18 ans passé. Oui. Parlez-moi des services. Comment ça fonctionne? Et on est en train d'écouter l'émission, puis on se dit... Ben, qu'est-ce que je peux recevoir, moi, qui ai un enfant handicapé, dans votre organisation?
Ce qu'un enfant peut recevoir, c'est d'être chez lui, d'être bien entouré. On parle du camp papillon, puis quand je disais je suis profondément amoureux de la société, de ces gens, du conseil d'administration jusqu'au moniteur du camp papillon, j'ai un immense respect pour tous ces gens-là. Il y a une admiration particulière pour les moniteurs et les monitrices de 18 ans qui abandonnent un confort durant un été, deux, trois, quatre étés pour aller à l'aventure du camp papillon ou de la résidence papillon et s'occuper d'enfants pour une pitance, s'occuper d'enfants, les accompagner, les écouter. Puis c'est le gros de leur travail, c'est d'écouter. Et puis pour une fois dans la vie d'un enfant, il y a quelqu'un qui l'écoute puis qui est intéressé de savoir c'est quoi ton histoire, c'est quoi tes goûts, puis qu'est-ce que tu veux faire. Ah, tu veux faire ça? D'accord, faisons-le. On a 10 jours devant nous là, pour le faire au camp papillon ou à la résidence papillon. Allons-y, là, puis... Puis, donc, tous les services, que ce soit la garderie d'intégration, que ce soit les résidences, nos colonies de vacances, parce qu'on a une deuxième à Otterburn Park, ça permet aux enfants de se retrouver dans un milieu...
qui est adapté pour eux.
Adapté, où on ne parle pas de ce que l'enfant n'est pas capable de faire, qu'on adapte le milieu en fonction de ses habiletés. Mmh. Donc, tu es capable de faire ça. Mais on va... Tout ce qui suffit de faire maintenant, c'est d'arranger l'environnement pour que tu sois capable de réaliser ce que tu es capable de faire. Donc la société carbure.
Carbure à ça. Alors, donc, il y a le camp papillon qui permet aux enfants handicapés de vivre un séjour en nature. Ça, c'est très, très, très important. Il y a des soins, des activités qui sont vraiment, vraiment consacrées à eux. Il y a également la caravane papillon. Ça, c'est une version qu'on dit plus nomade, c'est ça?
Exactement. En raison des distances que parce que le camp papillon reçoit des enfants de partout au Québec. Mais il y a parfois les distances sont assez immenses. Donc, on a pensé, il y a environ 10-15 ans, de mettre sur pied un camp ambulant. De prendre le camp papillon puis de l'amener dans la cour de l'enfant. Donc, on a des moniteurs qui partent en caravane avec des infirmières, avec du matériel adapté. On va dans un camp de vacances qui offre pas tous les services aux enfants handicapés d'une région en particulier, que ce soit au Saguenay ou sur la Côte-Nord, à cette île. Et les enfants de la région viennent à ce camp avec tout le personnel et l'équipement de la société ou les enfants handicapés, avec la formation qu'ils ont reçue au camp papillon. Et on leur offre un party pendant 10 jours.
Et puis hier, vous avez parlé de Autobahn Park, la colonie Les Bosquets Albert Hudon.
Oui, ça c'est la petite sœur du camp Papillon. En 2003, on nous a offert ce site exceptionnel de 5 millions de pieds carrés, 1 km par 2 km à Otterburn Park, boisé. Oui, et à un jet de pierre de Montréal. Mm. Et donc, on s'est associé avec une organisation qui s'appelle les services de répit Imergo, spécialisée chez les enfants autistes parce que les besoins sont immenses, ouais. Les services sont presque inexistants pour les personnes autistes. Pour organiser un camp de vacances où il y aurait toutes sortes d'activités, mais surtout, et c'est aussi le cas du camp Papillon, dire aux parents, pendant 10 jours, là, vous pouvez vivre en étant tout à fait, en vivant cette jour-là, en toute quiétude, en sachant que votre enfant est aimé.
Oui, c'est ce qui est important et c'est ce que je ressens. Aimer, on en prend soin, mais on l'aime d'abord.
On l'aime d'abord, c'est sûr, c'est sûr. Prendre soin d'un enfant dont il y a une certaine distance, c'est mécanique. Et lorsque vous venez au camp Papillon ou à la résidence Papillon pour les courts séjours de répit, il n'y a rien de mécanique là. Et dès l'instant où l'enfant rentre, on l'aime. Ces jeunes-là, je parle des jeunes moniteurs encore une fois, on décrit souvent la jeunesse comme étant égocentrique et paresseuse, mais ce n'est pas du tout le cas.
C'est
pas du tout le cas. On leur donne une mission. Et on leur donne un mandat et c'est des gens absolument extraordinaires.
On écoute une prochaine chanson. Vous avez choisi les Beatles, In My Life. Pourquoi?
Pour Nicole. J'ai connu bien des moments, j'ai connu bien des endroits, j'ai connu bien des gens, mais c'est toi que j'aime le plus.
On l'écoute.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall.
Nous sommes avec Ronald Davidson, directeur de la Société pour les enfants handicapés du Québec. Alors, on parlait des services. Il y a aussi la garderie Papillon qui offre un milieu qui est très, très stimulant pour l'intégration, intégré au jardin Papillon. Et le camp de jour des jardins Papillon, c'est aussi un camp de jour qui accueille des enfants de 3 à 8 ans.
Oui. La garderie Papillon a été fondée en 1976 sur le principe que l'inclusion, c'était bien beau, mais il fallait fallait absolument que l'inclusion soit également, que se vive, que ça démarre très, très rapidement. Donc, cette génération-là de gens, la société, on dit, on va faire une garderie où on va prendre des enfants qui ont des besoins spéciaux et des enfants qui ne sont pas handicapés, on va les mettre ensemble. Et énorme succès. Énorme succès. Encore une fois, je ramène ça à moi. Laurence, ma fille, elle a fait du vélo à l'âge de 6 ans. Le vélo à 2 roues, on enlève les petits trous arrière, puis vas-y dans la ruelle du Mile End, puis ça a été à l'âge de 6 ans. Mon fils, Jean-Louis, 3 ans, pas parce qu'il est plus intelligent, plus habile, plus sportif, c'est parce qu'il a vu sa sœur faire. Mm-hmm. Donc, à la garderie Papillon, des enfants qui ont des habiletés montrent aux autres, par l'influence des pères, là, PAIRS, comment découper, comment prendre des blocs, comment... Mm-hmm. Donc, les enfants qui ont des besoins spéciaux, les enfants handicapés, apprennent beaucoup plus vite dans un milieu où il y a cette mixité-là qui mm-hmm. fait en sorte que le travail de l'éducatrice, c'est un travail de supervision, puis de travailler sur des choses en particulier, et le reste, c'est le compagnon qui s'en occupe, c'est le camarade qui s'en occupe. Donc, c'est une super belle formule.
Donc, c'est un succès.
C'est un succès, puis encore aujourd'hui, c'est un énorme succès. Et au fil du temps, on s'est dit, ouais, mais il y a des enfants qui ont besoin d'un petit peu plus de travail, qui ont besoin d'un petit peu plus de travailler l'orthophonie, de pouvoir parler, ou la motricité fine. Puis dans une classe de 10 enfants, c'est difficile à un moment donné de travailler sur des choses. Donc, on a mis sur pied le Jardin des Papillons, qui est un centre de stimulation avec des éducatrices spécialisées, des plans de développement qui sont faits par des professionnels de l'hôpital de Montréal pour enfants, qui permettent à un enfant de travailler sur des choses qu'il doit forcer un peu là, pour mm-hmm. pouvoir s'exprimer, pour avoir un petit peu plus d'autonomie, pour pouvoir bouger d'une façon un petit peu plus, avec un petit peu plus de liberté. Puis ça, on le fait parce qu'on y croit. Mais dans la vie d'un parent, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche avec notre jeune enfant. Puis on ne saura pas vraiment c'est quoi qui cloche avant l'âge de 18 mois, où il y a un diagnostic préliminaire qui est posé. Ouais. Et ensuite, la galère commence avec les listes d'attente, puis avec les formulaires à remplir, avec... les parents sont sollicités de tous côtés à justifier le handicap chez l'enfant dont ils ont tant rêvé. Et ça, pour une mère en particulier, c'est épouvantable, surtout qu'elle doit réduire ses heures de travail parce que l'enfant a des besoins spéciaux, peut pas
prendre des rendez-vous chez les spécialistes. Déjà, exactement. Ça, en partant, c'est des heures. Là. On sait très bien que même si le rendez-vous est fixé, on attend 3-4 heures.
Et alors les listes d'attente.
Oui.
Le diagnostic tombe à 18 mois, donc l'enfant est placé sur une liste d'attente pour un premier service de réadaptation qui peut aller jusqu'à 36 mois. Donc, l'enfant, il a 4 ans. Et plus, lorsqu'il y a son premier service de réadaptation, et chez n'importe quel enfant,
incroyable.
Qu'il soit handicapé ou non, tout se passe dans les premières années.
Mais oui,
donc,
oui.
C'est pour ça le jardin le Jardin des Papillons, notre centre de stimulation, permet de prendre pas perdre de temps, de pas prendre de retard.
De continuer.
De pousser ça jusqu'à ce que l'enfant ait un premier service de réadaptation. Bien sûr, les parents peuvent aller vers le service privé, mais il faut avoir de l'argent, il faut avoir des assurances, puis c'est pas à la portée de tous les parents.
Alors, vous l'avez dit, M. Davidson, quand les parents apprennent que leurs enfants vont être ou sont handicapés, il y a un moment, il faut s'organiser, ne serait-ce que la paperasse, de faire les rendez-vous, il y a des deuils à faire. Et une fois qu'on a appris la nouvelle, il faut s'occuper adéquatement de l'enfant, d'aller vers les services, c'est de l'énergie. On ne peut plus sortir comme on voudrait. Il faut de l'attention. C'est constant. Mais ses parents ont besoin de répit. Et ça, vous vous en occupez aussi au Camp Papillon. Il y a l'auberge Papillon et la résidence Papillon. Comment ça fonctionne?
C'est le Camp Papillon. en ville. C'est-à-dire qu'il y a une programmation d'activités et pendant de courts séjours, 3 jours, 4 jours, ou ça peut aller jusqu'à 2 semaines également si le parent, si les parents ont décidé de faire un voyage. Parce que l'enfant, avant qu'il atteigne l'âge de 10-11 ans, c'est facile à faire garder par une gardienne, par un membre de la famille, une grand-maman. Mais lorsque l'adolescence fait son œuvre, c'est de plus en plus difficile à faire garder son enfant. Donc, on a un programme d'accompagnement à domicile, mais aussi, ce qu'on privilégie, c'est dire aux parents, écoutez, vous avez besoin de souffler un peu. Amenez-nous votre enfant. C'est pour 2-3 jours. Si c'est pour aller au cinéma, c'est aller avoir un souper en tête-à-tête, n'importe quoi. Venez nous l'apporter, venez nous porter votre enfant. On va s'en occuper. On va l'aimer. On va faire des activités avec lui. On va faire les devoirs avec lui. On va l'habiller le matin pour le mettre dans l'autobus qui s'en aille à l'école. Donc, on fait tout ce qu'il y a dans un contexte de vie de famille, mais aussi dans un contexte, comme je disais tantôt, où on s'éclate de rire. On se couche un peu tard. On viole certaines...
On mange pas vraiment pyjama. J'ai entendu
exactement,
parler de ça.
Exactement. Puis les parents ont besoin de ce répit-là. Et nous, on transgresse les règles normales d'une famille parce que nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant dise « j'ai hâte de revenir ». Donc... C'est notre motivation, c'est notre récompense, c'est là-dessus qu'on mise toujours, c'est que l'enfant dise « je veux venir ici
». Alors, évidemment, il faut de l'argent, la contribution du public, les entreprises privées, mais vous faites beaucoup de choses pour qu'il y ait de l'argent à la Fondation. Il y a le classique du golf Louis Coutu comme événement. Ça, c'est le 1er septembre prochain?
Oui, exactement, oui. C'est Louis Coutu qui est membre du conseil d'administration, tenez-vous bien, depuis 27 ou 28 ans à la Société pour les enfants handicapés. Puis, en 2004, il a décidé de prendre charge d'un tournoi de golf. Et en 2008, il y avait tellement de succès avec ce tournoi de golf. Et évidemment, Louis Coutu... Il y a un lien direct avec la famille de Jean et Marcel Coutu, c'est le fils aîné. Donc, il y a toute la famille Coutu qui appuie la Société où les enfants handicapés le font pour les bonnes raisons, le font aussi parce que le grand frère, il dit « j'ai besoin de votre aide ».
Oui, donc, allô?
C'est un homme charmant, un homme d'un dévouement extraordinaire.
Et puis le 23 septembre 2015, à la place la zone de chute VPP.
Oui. Mais avant, juste avant,
oui.
Il y a le cabaret sur le Mont-Royal. Mais là, c'est exceptionnel, ça. On a rencontré Alain Picard, qui était le président à l'époque, et moi avons rencontré le président de Flex Group, un monsieur très, très bien mis, d'un certain âge, dans la soixantaine, qui, on lui demande, est-ce que vous pourriez nous aider à mettre sur pied une campagne corporative? Son nom, c'est Jean Fabi. Jean Fabi, c'est un homme d'une éloquence qui est époustouflante. Et la première chose qu'il nous a dit, c'est « Écoutez, si vous voulez, j'organise un souper bénéfice avec des petits plats et tout ça, il n'y en est pas question, je ne ferai pas ça, je vais faire mieux. Je connais des hommes d'affaires à Montréal qui jouent un instrument de musique, on va vous faire un spectacle. »
Ah.
Et donc, à tous les ans, depuis 2011, Jean Fabi avec Gilles Fortin-Tristan, avec Mario Charpentier de BFL.
C'est LRC quand, exactement?
Ça, c'est le 17 septembre au Vintage du Casino Montréal.
Vous avez déjà plusieurs, mon réalisateur dit qu'il va être là.
Mais
moi
c'est,
aussi, j'y serai.
Mais c'est d'une qualité, c'est un spectacle d'amateur, mais c'est d'une qualité époustouflante et ils sont bons. Donc, il va y avoir des chansons des années 50, 60, 70, 80. Des gens de mon âge, on aime ça. Puis là, c'est pas de cravate, tenue de ville, sans la cravate, puis tu danses.
Ben, c'est parfait,
et tous les repas sont offerts gracieusement par les restaurants.
Et c'est combien pour que les gens déjà puissent mettre ça dans leur agenda et qu'ils mettent une petite note de mettre de l'argent de côté pour aller là? À peu près, on vous demandait...
1 000 le billet.
1 000 le billet?
Oui, et Jean Fabi a dit un jour, j'ai jamais cru qu'un jour, les gens paieraient tant d'argent pour venir me voir jouer de la guitare. Donc, c'est un Woodstock en cravate complète qu'on offre aux gens.
Mais quand même, faut le dire que ça va tout de suite après, là, après le spectacle, l'argent va directement à vous pour les
Absolument.
Enfants. Donc, c'est ça qui est le plus important.
Oui, puis il y a un troisième camp qui va se matérialiser au cours des prochains mois à Stoke, en Estrie. Et ça, c'est directement l'œuvre de Jean Fabi et de son cabaret, son magnifique cabaret.
Alors, on fait une petite pause et on revient avec la fin de l'émission, les questions en rafale.
Oh! Okay.
Ronald Davidson, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Inspiré, c'est les électrons libres. Inspiré, peut-être pas, mais que j'admire beaucoup, des électrons libres. De Lénine à Falardeau, en passant par Bill Maher, jusqu'à un tas d'autres artistes et personnalités publiques, comme George Carlin, par exemple. Des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de dire ce qu'ils pensent. Que ça te plaise ou pas, et des choses qui disent des vérités absolues, mais qui le font sans filtre et avec beaucoup de détermination. Et moi, j'admire ça! J'admire ça parce que ça prend un courage inouï de faire ça. Et ces gens-là sont... Ils sont toujours face à deux positions diamétralement opposées. On les adore ou on les haït. Puis il y a bien plus de gens qui les haïssent qu'ils aiment. Donc, c'est des influences. Oui.
Alors, vos mentors?
Dave Davidson.
Les livres que vous nous recommandez?
Oh, sans hésiter, l'attrape-cœur de Salinger. Ça, c'est... pour moi, c'est la Société pour les enfants handicapés du Québec. C'est comment se trouver une place dans un monde chaotique puis dans un monde qui est complètement indifférent à toi. C'est vraiment pour moi la Société pour les enfants handicapés.
Les artistes que vous aimez?
Beatles, Stromae parce qu'il m'étonne, Leloup parce que je pense que c'est le seul artiste qu'on a au Québec.
Et aussi Brel, parce qu'on devait passer une chanson, on a préféré vous entendre.
Oui, Brel, c'est évidemment, c'est viscéral, c'est l'ADN, c'est mes tripes, c'est particulièrement Jeff.
Alors, on met un petit extrait juste pour vous faire plaisir.
Merci.
Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois-quarts putain t'a claqué dans les mains. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu fais honte à voir. Les gens se peignent notre tête. Foutons le camp de ce trottoir. Viens, Jeff, viens, 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 viens. Il me reste trois sous. On va aller se les boire chez la mère Françoise. Viens, Jeff, viens, viens. Il me reste trois sous. Et si c'est pas assez bête, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites. Des frites et puis des moules. Et du vin de Moselle. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la madame André. Paraît qu'il y en a de nouvelles.
Ça nous fait mal au cœur de couper la chanson. Vous voulez vous faire plaisir tout de même parce
Merci, vous êtes chanceux.
Alors, dernière question dans notre jeu questionnaire, les villes que vous préférez?
Il y en a une. C'est Paris. Paris, c'est la ville... La ville du plaisir, la ville de mes rêves, la ville où je suis tombé en amour à distance. C'est une ville qui comporte tous les étonnements puis toutes les beautés du monde. Et l'autre, c'est Saint-Alphonse-Radiguez parce qu'elle a sa propre tour Eiffel, c'est le Camp Papillon.
Merci, merci beaucoup, Ronald Davidson. Merci à mon équipe, mesdames, messieurs. C'était une petite émotion pour moi. La dernière de l'émission de ces gens qui font la différence. Alors, merci à mon équipe, Mathieu Tessier à la réalisation de l'émission, Christiane Campagna à la recherche et Kevin Breton. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Et merci à Louise Vien et Marjorie Théodore parce que vous croyez en l'émission et vous croyez à tous ces gens qui l'écoutent. Merci d'avoir cru en moi. On se retrouve à bientôt. Bye bye. Thank you.